qui fait le succès d'un film hollywoodien ? Les acteurs ? Ouais, peut-être. La fin ? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore qui fait un succès d'un film hollywoodien ? Les effets spéciaux ? Au niveau de l'histoire ? La romance, les acteurs ? Les super-héros. Est-ce que quelqu'un a lu le livre Le Hobbit ? Un vieux livre. Qui a lu le livre ? Personne n'a lu le livre. Ah, c'est dommage. Et qui a vu le film alors, Le Hobbit ? Bon alors, dommage, vous ne pouvez pas savoir la différence entre l'histoire du livre et puis l'histoire du film. Parce qu'il y a plusieurs grandes différences. Il y a effectivement l'apparition d'un personnage qui ne tombe pas tout à fait de nulle part, mais qui est repris d'ailleurs dans l'histoire que Tolkien a développée. C'est Azog qui arrive comme anti-héros, parce qu'il faut bien un anti-héros dans le film, sinon ce ne serait pas drôle. Et il y a aussi une romance entre un des nains et un elfe. Et cette histoire n'apparaît nulle part dans Le Hobbit. Ils ont massacré à la hache l'histoire originale pour en faire une histoire hollywoodienne à grand succès. Et donc, je crois, dans la plupart des films hollywoodiens, il y a une histoire d'amour, quelque chose qui s'y apparente. Et on voit, il y a beaucoup de films où on voit où ils mettent ça des fois de manière un petit peu artificielle, parce que s'il n'y a pas d'histoire d'amour, ça ne va pas. Vous avez aussi fait ce constat ? D'autres personnes qui ont fait ce constat ? Et dans la Bible, il y a un livre qui nous parle spécialement d'amour, et je vais lire quelques versets là-dedans. C'est dans le Cantique des Cantiques. Alors, Cantique des Cantiques, et je vais lire au chapitre 7, verset 2 et suivant. Voilà, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 2 et suivant. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des ornements, œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lys. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui monte la garde face à Damas. Ta tête se dresse aussi fièrement que le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme le pourpre. Un roi est prisonnier de boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble à un palmier et tes seins à deux grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais comme un vin excellent. Il coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à son bien-aimé et son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum à nos portes. Les mandragores diffusent leur parfum. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Si seulement tu étais comme mon frère, si seulement tu avais été allaité par ma mère, je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais et l'on ne me mépriserait pas. Je te conduirais, je t'amènerais chez ma mère, tu m'instruirais et je te ferais boire du vin parfumé, du jus de mes grenades. Que sa main gauche soutienne ma tête et que de sa main droite il m'enlace. Je vous en supplie, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Donc voilà un texte, une chanson absolument magnifique. Et si vous ne connaissiez pas ce texte et que je l'avais lu comme ça, probablement que vous n'auriez pas deviné, à part un peu les noms qu'on retrouve quand même ailleurs dans la Bible, vous n'auriez probablement pas pensé que ce texte faisait partie de la Bible. Parce que, quand même, il faut dire, il est très suggestif. Je veux monter sur le palmier pour attraper ses grappes. Voilà, c'est clair. C'est, voilà, il n'y a pas besoin de décrire, quoi. Tout est dit dans le texte. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Voilà une illustration très claire que je ne peux pas tellement en dire plus. Et c'est intriguant. C'est intriguant d'avoir un texte comme ça aussi explicite sur la sexualité dans la Bible. Et dans le Cantique des Cantiques, Dieu n'apparaît presque pas, n'est presque pas mentionné en tout cas. Il est mentionné seulement dans un verset un peu plus loin. Car l'amour est aussi fort que la mort, la passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Seul moment où Dieu est mentionné dans le Cantique des Cantiques. Et on peut se demander, mais comment ça se fait que la Bible parle de manière aussi directe de ce sujet, qu'on évite toujours, en tout cas, particulièrement dans l'Église. Parce que ailleurs, j'ai fait l'armée, et je peux vous dire que on en parle. Les gens en parlent. Et la Bible en parle, sans gêne, sans tabou. Alors voilà, bienvenue dans cette quatrième épisode des histoires croustillantes de l'Ancien Testament. Voilà, et cette fois, ce sera plus croustillant que trash. Puis quand on lit ce texte, on peut se poser la question, mais finalement, quelle différence entre le Cantique des Cantiques, donc le Cantique des Cantiques, la chanson par excellence, la plus belle des chansons, voilà, c'est ça que ça veut dire, le Cantique des Cantiques, le plus beau des chants. Quelle est la différence entre ça et simplement une histoire érotique qu'on pourrait trouver sur Internet? Et je pense qu'il y a une très grande différence. Il y a une inversion dans les histoires érotiques entre le but et les moyens. Parce que finalement, quel est le but du Cantique des Cantiques? C'est pas tellement de parler de la sexualité. Quel est le but d'une histoire érotique, d'un film porno? C'est le sexe. C'est juste, bêtement, crûment, le sexe. Alors que dans le Cantique des Cantiques, il développe une beauté dans tout son récit. Il veut manifester, parler de l'amour, du véritable amour. Et bien sûr, quand on parle de l'amour, on va penser à un homme et une femme qui s'aiment. Parce qu'il y a une expression de l'amour là qui est très forte. Quand il y a un homme et une femme qui s'aiment, on va penser à la sexualité. Parce que la sexualité est un des lieux où on exprime de la manière la plus profonde, de la manière la plus intime, l'amour. Et ceci a pour but de manifester l'amour. D'ailleurs, si on pense à un film d'amour, une histoire romantique, de quoi va-t-il être question dans cette histoire? C'est très bête, hein, comme question. D'un homme et une femme qui s'aiment. On s'attend à ça. Si on veut parler d'une histoire d'amour, on ne va pas commencer à faire un film de guerre. Enfin, peut-être qu'il y aura une guerre quelque part, mais disons, la guerre ne sera pas l'objet principal. Et dans les histoires érotiques, dans la pornographie, il peut y être question d'amour, de sensualité. Mais c'est jamais le but. S'il y a une petite quelque chose d'amour, quelque chose de romantique qui se passe, c'est uniquement pour conduire au sexe. Et on voit qu'il y a ce revirement entre le moyen et le but, et ça change tout. Et quand on lit le Cantique des Cantiques, on se dit, mais c'est magnifique. Quand on lit une histoire érotique, un film de cul, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose de dégoûtant qu'on ne retrouve pas dans le Cantique des Cantiques, parce que le but, c'est de manifester l'amour. C'est toujours un sujet quand on parle du couple, quand on parle de la sexualité, il y a toujours, c'est toujours un petit peu délicat à aborder. Pour plein de raisons. Déjà, tout le monde ici n'est pas en couple. Quelques-uns peut-être par choix, beaucoup j'imagine, parce que la vie les a conduits comme ça. Et même ceux qui sont en couple, ça se passe pas toujours aussi bien que le Cantique des Cantiques. Et on pourrait faire une étude approfondie là-dessus, mais je me dis, si on réfléchissait en couple à lire ce texte, et en essayant de le vivre, on peut parler de la sexualité, particulièrement dans le couple. Il n'y a pas de problème, on peut vivre la sexualité dans le couple. Il n'y a pas de problème, c'est quelque chose que Dieu a créé, c'est quelque chose que Dieu a voulu, c'est quelque chose qui est magnifique quand c'est vécu dans le cadre du couple. C'est quelque chose qui construit, c'est quelque chose qui restaure. Et moi, une chose qui me frappe quand je lis ce texte, c'est comment le jeune homme parle de sa bien-aimée et comment la bien-aimée parle de son chéri. Alors bien sûr, les images font un petit peu sourire. Ton nez est comme la tour du Liban qui monte la garde face à Damas. Alors, voilà une image. Essayez de dire ça à votre chérie. Quand j'ai préparé ça, j'ai dit à ma femme, j'ai repris un autre verset. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle. Aucune d'elles n'est seule. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. Voilà, elle s'est levée et puis elle a continué ce qu'elle avait à faire. c'est d'une autre époque, c'est d'un autre temps, c'est pas de notre culture, c'était pas une vie urbaine. Mais j'imagine que dans une contrée où il fait chaud, où il n'y a pas trop de coudronnées, les routes c'est de la terre battue, il y a du sable, quand on se déplace on est tout de suite sale. Puis un mouton, quand il a passé du temps dans les pâturages, il n'est pas forcément aussi blanc que nos moutons dans nos pâturages à nous. Surtout si en plus ils se sont déplacés, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été brossés. En plus, ce n'est pas facile l'entretien d'un mouton. Non mais c'est vrai, en plus ils tombent malades. Enfin. Mais quand ils ont été tondus, quand ils ont été lavés, ils sont blancs, ils sont resplendissants, c'est magnifique. Puis quand même, si on veut faire des compliments, quand on reprend des choses de la nature, c'est quand même plus joli que si on prend les choses de la technologie. Tes dents sont comme la lumière de la lampe de mon iPhone quand je l'allume au milieu de la nuit. C'est moins romantique. Mais finalement, qu'est-ce qui pousse le bien-aimé et la bien-aimée à faire des compliments à l'autre? Alors probablement que c'est deux personnes absolument sublimes et magnifiques, mais je suis convaincu que ce qu'ils sont, c'est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et cet amour les conduit à trouver l'autre, mais resplendissant, quel que soit l'âge, quel que soit l'état de santé, quelle que soit la période de la vie. Par amour, comme ils l'aiment, forcément ils trouvent que l'autre est le plus beau du monde. Au début du Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, « Je suis noire, dit la jeune fille, je suis noire, mais je suis charmante. » Alors bon, nous, ça nous paraît, elle est noire, quel est le lien dans tout ça? Aujourd'hui, on a des standards de beauté, on aime bien que les gens soient bronzés. si j'ai bien compris un peu l'évolution de la beauté, ça c'est assez récent, ça date du XXe siècle, c'est quand en fait on est passé d'une société agraire, où on allait dans les champs, où on bronzait facilement, où on était tout le temps dehors, à une vie plus citadine, où on est derrière un bureau, où les gens sont moins dehors, et du coup bronzent moins. Et quand les gens partaient en vacances, ils revenaient bronzés. Donc être bronzé, c'était un synonyme de luxe, un synonyme de, voilà, j'ai eu les moyens de partir en vacances, j'ai pu bronzer. Mais il y a beaucoup de cultures où être bronzé, c'est pas du tout bien vu, parce que ceux qui sont bronzés, en fait, c'est les paysans. C'est ceux qui sont dehors, c'est les jardiniers, c'est ceux qui travaillent dehors. Et du coup, ils ont des standards de beauté où ils aiment bien que les gens soient blancs. C'est le cas, par exemple, de la Chine, où les femmes alors, aiment bien être blanches parce que c'est un standard de beauté là-bas. Et pourquoi je trouve bien que ça commence comme ça, je suis noire, mais je suis charmante. Parce qu'on voit qu'elle n'est pas dans les standards de beauté de l'époque. Mais ce n'est pas dire qu'elle n'est pas belle. Et pour son bien-aimé, c'est la plus belle. Parce qu'il l'aime. Et quand on aime quelqu'un, ça change tout. Et moi, je vous encourage dans vos couples à dire à l'autre à quoi il ressemble, à quoi il vous fait penser. Reprenez le cantique des cantiques. Soyez un petit peu maladroit s'il faut. Mais vous risquez pas grand-chose à dire à votre conjoint que vous l'aimez, qu'il est beau, que dans vos yeux, c'est l'homme le plus magnifique de la terre. C'est la femme la plus belle, la plus resplendissante que la terre n'ait jamais portée. Dans vos couples, osez parler de sexualité. Osez vivre la sexualité. C'est important. Ça fait partie de l'amour. Ça fait partie d'un amour véritable qu'on veut partager avec l'autre. Les mandragores diffusent leur parfum à nos portes. Les mandragores diffusent leur parfum. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Le Cantique des Cantiques utilise un langage très imagé. Donc, le but, ce n'est pas forcément de décrire les étapes d'un couple. Enfin, il ne me semble pas. C'est une chanson pour exalter l'amour. Mais il y a une chose qui est claire dans le Cantique des Cantiques, c'est que cet amour conjugal est exclusif. Il est toujours question de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Il n'est pas question d'une troisième personne. Il n'est pas question de changer de partenaire, que ce soit de manière géographique, où on a plusieurs personnes en même temps, ou temporelle, où on aligne les conquêtes. Il y a une personne à qui on destine notre amour. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de l'amour. Et puis, les fruits nouveaux et anciens se trouvent devant leur portée. Je crois que dans l'amour, il y a des choses anciennes dont on peut profiter, des trésors qui sont là, sur lesquels on peut construire, avec lesquels on peut vivre. Il y a aussi des choses nouvelles qui arrivent quand on partage l'amour. Il y a une créativité qui est là. Je vous en supplie, fille de Jérusalem, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et c'est un refrain qui vient, je crois, trois fois, en tout cas plusieurs fois dans le Cantique des Cantiques. Ne réveillez pas l'amour avant que ce soit le bon moment. Et là, je crois qu'il y a un conseil plein de sagesse qui est là. Quand on est célibataire, on peut se sentir seul, on peut avoir envie de rencontrer l'âme sœur, avoir envie de rencontrer quelqu'un. On peut avoir envie, une fois qu'on a rencontré quelqu'un, de brûler les étapes, de tout de suite vivre la totalité du Cantique des Cantiques. Et il y a un temps pour tout. On ne choisit pas forcément de tomber amoureux de quelqu'un, on ne choisit pas forcément d'avoir le coup de foudre, mais il y a certaines choses qu'on peut faire ou ne pas faire pour attiser ou ne pas attiser ses sentiments. Si vous savez que ce n'est pas le moment de commencer une relation, et puis qu'il y a un jeune homme ou une jeune femme qui vous plaît, bah, il faut éviter de constamment lui envoyer des messages. Il faut éviter de constamment penser à lui. Mais ça paraît bête, mais c'est hyper important. Parce que si vous faites ça, vous allez attiser vos sentiments. Vous allez souffler sur la braise pour qu'il y ait une flamme qui en sorte. Et elle va sortir, à coup sûr. Et ça s'adresse aux gens qui sont encore célibataires, mais ça s'adresse aussi aux couples mariés. Parce que bien sûr, de temps en temps, il peut y avoir quelqu'un qui nous plaît. Il faut mettre des limites claires. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui nous plaît et qu'on commence à passer du temps avec lui, les sentiments ils vont grandir. Osez mettre des limites claires. Si vous êtes célibataire, pour vous garder, pour votre bien-aimé. Parce que ça, je crois que c'est une chose, un des plus beaux cadeaux, ou le plus beau cadeau qu'on peut faire à son conjoint, c'est d'arriver et d'avoir eu qu'un amour dans sa vie. Et c'est fantastique quand on peut vivre ça. Et je pense que les couples qui vivent ça, ils se préservent de beaucoup de souffrances. Puis quand on est en couple, c'est clair que si tout d'un coup il y a une troisième personne qui apparaît dans le couple, ça fait des dégâts. Alors préservez-vous. Et là, il y a une attitude à avoir. On est tous tentés. Tous ceux qui sont en couple ici, il n'y en a pas un de vous aujourd'hui qui ne sera pas tenté d'aller voir ailleurs. C'est omniprésent. C'est présent dans la pub. C'est présent dans les films. Il y a des collègues autour de vous. Il y a des amis. Il y a la fille que vous n'avez pas revue depuis 10 ans et vous savez pourquoi vous ne l'avez pas revue. Et tout d'un coup, qui débarque. Elle débarque. Vous dites, écoute, j'ai pas le temps d'aller boire un café. Non, j'ai pas envie de te voir. Pas forcément aussi crûment, mais mettez la barrière. C'est important pour que vous puissiez vivre cette magnifique histoire d'amour du Cantique des Cantiques. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. On peut se poser la question, mais ce Cantique des Cantiques qui nous parle de l'amour d'un homme et d'une femme, de manière aussi directe, sans vraiment parler de Dieu, c'est surprenant dans la Bible. Et moi j'aimerais vous poser une autre question. Imaginez maintenant qu'on retire ce livre de la parole de Dieu et qu'on lit « Dieu est amour ». Dieu veut vivre une histoire d'amour passionnante avec vous. Et qu'on retire le Cantique des Cantiques. Est-ce que franchement, il ne manquerait pas quelque chose? Je me dis, mais si on veut vraiment parler d'amour et qu'on éclipse totalement la beauté de l'amour d'un couple, mais il manque quelque chose. Ce serait un livre qui ne serait pas honnête avec ce qu'il y a dans nos cœurs, avec ce que nous vivons dans le quotidien, avec notre conjoint, avec notre conjointe, à ce à quoi nous aspirons. Si ce livre disparaissait de la Bible, il manquerait quelque chose quand même dans cette histoire d'amour que Dieu veut vivre avec l'humanité. On l'a dit, dans tous les films hollywoodiens, ils rajoutent des histoires d'amour. Et c'est pas pour rien. C'est pas juste. Le scénariste, d'un coup, il a une idée un petit peu allumée, alors hop, il met ça là-dedans. Non, c'est parce que ça répond à un besoin que nous avons. Ça répond à une attente, ça répond à quelque chose que nous avons. Nous avons soif d'amour. Nous avons soif d'amour. Dieu est amour. Dieu a créé le couple. Alors c'est normal. Heureusement que dans la Bible, il y a un livre qui est consacré à une histoire d'amour passionnante. Puis c'est un texte, vous vous en doutez, qui donne du fil à retordre aux théologiens, à l'église, aux pasteurs. Peut-être vous avez déjà entendu le Cantique des Cantiques cité une fois ou l'autre lors d'un mariage. J'imagine pas forcément les versets que j'ai lus là, je crois que ça doit être la première fois qu'ils sont lus dans l'église. Ça dérange parce que c'est pas facile et c'est intéressant parce que depuis, j'imagine tout le temps, depuis qu'il a été écrit, depuis qu'il est là, on y a vu aussi une description de l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de juste derrière cette interprétation. Alors, ne balayons pas trop vite toute la question du couple, toute la question de nos sentiments, parce que ce serait passé à côté de quelque chose de très important. Mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément juste. Dieu veut vivre une relation d'histoire, une relation d'amour passionnante avec toi, une relation d'amour unique, exclusive. Et d'ailleurs, les Juifs, quand ils lisent ça, ils le lisent à la Pâque et disent, ben voilà, c'est la description de l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Et on voit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, notamment dans les prophètes, où la relation entre Dieu et son peuple est décrite comme une relation conjugale, comme une relation d'un homme avec une femme. C'est un thème qui se retrouve en Osée, en Ésaïe, vous pouvez le lire, hein, c'est un thème vraiment qui revient de manière récurrente. Et c'est aussi un thème qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Si on pense à Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 22 et suivants. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Déjà là, la comparaison est assez directe, hein. Christ, c'est le mari de l'Église. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Voilà, je ne vais pas faire un long développement là-dessus. Et il faut lire la suite. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Christ est présenté comme l'épouse de l'Église. Et moi je me dis, mais c'est fantastique de voir à quel point Dieu a aimé l'humanité. Peut-être juste un commentaire, pas que ça crée des histoires dans vos couples. Parce qu'en général, femme, soumettez-vous à votre mari. J'imagine que c'est un verset qui peut facilement être cité par les hommes à la maison. C'est une recommandation qui est donnée aux femmes. C'est aux femmes de se soumettre à leur mari et pas aux maris de soumettre leur femme. Et je vous encourage à le faire. Je pense que quand les femmes, elles décident de suivre leur mari, de les soutenir dans les responsabilités, de les approuver dans leur choix, même quand il y a eu des erreurs, même quand le mari s'est trompé, et ça favorise une bonne entente dans le couple. Les hommes, ils ont besoin d'une sorte de respect, peut-être de temps en temps un petit peu démesuré, mais ils ont besoin de ça. Ça les rassure, ils se sentent aimés. Puis après, à la suite, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est offert pour elle en sacrifice. Il y a un amour chez les hommes qui doit être là, qui doit être présent. Et je pense que quand les deux sont vécus ensemble, bah, ça fonctionne bien. Et quand il y a un des deux qui est défaillant, bah, c'est plus difficile à vivre. Mais si vous, Marie, êtes tenté de dire à vos femmes, mais soumettez-vous, c'est la parole de Dieu, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier comme Christ l'a fait pour son Église? Et je crois que c'est encourageant de voir comme Dieu nous aime. Et c'est aussi encourageant quand on lit le Cantique des Cantiques de penser que que Dieu veut cette relation d'amour avec nous. Une relation d'amour qui dépasse tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut imaginer, et dont il veut nous donner un avant-goût maintenant. Et je me dis, c'est encourageant pour toutes les personnes qui sont célibataires, en attente de trouver quelqu'un. Parce que vous pouvez vivre en Jésus-Christ quelque chose d'absolument passionnant, qui va vous permettre d'attendre le bon moment. Vous pouvez faire confiance à Dieu, qui va vous conduire vers la bonne personne, au moment voulu, au moment où il l'aura choisi. Vous n'avez pas besoin de tourner à droite, à gauche, pour lancer l'étincelle, souffler sur la braise. Je trouve ça aussi encourageant pour les célibataires, qu'ils le sont malgré eux, qui ont attendu longtemps, qu'ils le sont devenus par la suite, parce que il y a quelque chose de passionnant qui peut être vécu avec Dieu. Et ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste une idée. Mais vous savez, quand vous prenez un temps de prière avec Dieu, et que Dieu vous rejoint dans ce temps de prière, puis que vous vivez quelque chose de fort avec lui, mais c'est absolument fantastique. Ça dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer vivre avec quelqu'un. Et si vous n'avez pas encore vécu ça, mais allez vers Dieu, recherchez sa face, continuez à prier, continuez à le vouloir. Parce qu'on peut vivre des choses absolument merveilleuses avec Dieu. Et c'est juste un petit avant-goût de ce qu'on va vivre quand Christ va revenir. Oui, Dieu a vraiment envie de vivre une relation d'amour passionnante avec nous. Et on peut se dire, mais il y a tellement de choses qui m'empêchent de vivre cette relation d'amour. Ne t'inquiète pas. Christ est venu pour mourir pour tes péchés. Il est venu, tu peux avoir cette relation passionnante avec Dieu. Demande-lui pardon, va à la croix. Peut-être que c'est pas tellement la relation avec Dieu qui vous pose problème, mais c'est la relation dans le couple. C'est pas si différent. Allez vers Dieu. Demande-lui pardon pour vos péchés à vous dans votre couple, ce que vous avez fait de faux. Demandez pardon à votre conjoint. Et il y a une chose que Dieu peut faire, que vous ne pouvez pas faire. C'est que Dieu, il peut toucher le cœur de votre conjoint. Et je sais que dans les couples, des fois, il y a des situations qui sont très très dures. Où les deux dans le couple sont en train de ramer, de se sentir seuls. Ou bien il n'y en a qu'un des deux, parce que voilà, il y a des couples aussi où, qui sont dysfonctionnels, ça arrive. Vous pouvez aller vers Dieu. Et Dieu a un accès auprès de votre conjoint que lui seul a. Et ça c'est vrai si votre conjoint est chrétien, c'est vrai aussi si votre conjoint est non chrétien. Dieu a un accès et il peut faire des choses quand on lui le demande. Demandez à Dieu de transformer votre femme, demandez à Dieu de transformer votre mari. Vous n'y arriverez pas. Lui, oui. Il y a un verset que je trouve absolument magnifique en Ecclésiaste. En Ecclésiaste 9, verset 9. Vous savez, l'Ecclésiaste n'est pas très encourageant, il dit à peu près « tout est futile dans la vie ». Mais il y a quand même ce verset 9, là, au chapitre 9, qui dit « jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. » Voilà. En gros, il dit, ta vie est inutile, tout ce que tu fais, c'est futile, mais il y a une chose dont tu peux profiter. Profite de ta femme. Profite de ton mari. C'est un don que Dieu nous donne. Et pour conclure, j'aimerais lire un texte en Apocalypse 19. Une voix, Apocalypse 19, verset 5, une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant et pur. En effet, le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. » Christ va venir rechercher son Église. Des fois, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, c'est cool, c'est l'Église, mais est-ce que vraiment ça me concerne? Mais quand il parle de l'Église, il parle de toi, il parle de toi, il parle de moi. Il va revenir rechercher son Église, qu'il est en train de préparer pour les noces. Et nos couples, on les vit comme on peut, du mieux qu'on peut. On n'a pas l'occasion de vivre en couple pour X raisons. Mais il y a cette promesse qui est faite là, dont on peut déjà avoir un avant-goût. On va vivre des noces avec Jésus-Christ. Dans le Cantique des Cantiques, il y a une beauté qui est là. Imaginez le plus beau paysage que vous ayez jamais contemplé. Vous êtes parti en vacances aux chutes du Niagara. Vous êtes allé dans la forêt tropicale, vous avez vu un perroquet magnifique. Vous êtes monté au Chasseral et vous avez vu les lacs. Vous êtes allé au bord du lac de Bienne et il y avait le coucher du soleil. Et une beauté absolument incroyable. Et pourtant, c'est rien par rapport à la beauté de Jésus-Christ. Et quand il va venir, on va pouvoir goûter pleinement à cette beauté. On a déjà un aperçu maintenant. Quand on prie, quand on loue Dieu, quand on se rassemble, quand il y a cette communion avec Dieu qu'on a de la peine à décrire, c'est un tout petit aperçu. Puis un jour, on va goûter ça pleinement. Amen. Parce que tu es un Dieu de beauté. Tu es un Dieu qui prend plaisir à l'amour. Seigneur, merci parce que dans la Bible, tu nous parles de tous les aspects de notre vie. Seigneur, nous te remercions parce que tu es là, présent au milieu de nous.